L'encyclopédie, article mariage. Mariage, substantif masculin, théologie. Considéreur lui-même, et quant à sa simple étymologie, signifie obligation, devoir, charge et fonction d'une mère. Quasi matris munus ou matris munium. À le prendre dans son sens théologique et naturel, il désigne l'union volontaire et maritale d'un homme et d'une femme, contractée par des personnes libres pour avoir des enfants. Le mariage est donc premièrement une union soit des corps, parce que ceux qui se marient s'accordent mutuellement un pouvoir sur leur corps, soit des esprits, parce que la bonne intelligence et la concorde doivent régner entre eux. Deuxièmement, une union volontaire, parce que tout contrat suppose par sa propre nature le consentement mutuel des parties contractantes. Troisièmement, une union maritale, pour distinguer l'union des époux avec celle qui se trouve entre les amis. L'union maritale étant la seule qui importe, avec elle un droit réciproquement donné sur le corps des personnes qui la contractent. Quatrièmement, l'union d'un homme et d'une femme pour marquer l'union des deux sexes et le sujet de mariage. Cinquièmement, une union contractée par des personnes libres. Toute personne n'est pas par sa propre volonté et indépendamment du consentement de tout autre en droit de se marier. Autrefois, les esclaves ne pouvaient se marier sans le consentement de leur maître. Et aujourd'hui, dans les États bien policés, les enfants ne peuvent se marier sans le consentement de leurs parents ou tuteurs, s'ils sont mineurs, ou sans l'avoir requis, s'ils sont majeurs. Pour avoir des enfants, la naissance des enfants est le but et la fin du mariage. Le mariage peut être considéré sous trois différents rapports, ou comme contrat naturel, ou comme contrat civil, ou comme sacrement. Le mariage, considéré comme sacrement, peut-être définit l'alliance ou l'union légitime par laquelle un homme et une femme s'engagent à vivre ensemble le reste de leurs jours comme mari et épouse, que Jésus-Christ a institué comme le signe de son union avec l'Église et à laquelle il a rattaché des grâces particulières pour l'avantage de cette société et pour l'éducation des enfants qui en proviennent. Le sentiment des catholiques à ce sujet est fondé sur un texte précis de l'apôtre saint Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 5, et sur plusieurs passages des Pères qui établissent formellement que le mariage des chrétiens est le signe sensible de l'alliance de Jésus-Christ avec son Église et qu'il confère une grâce particulière, et c'est ce que le Concile de Trente a décidé comme de foi. On croit que Jésus-Christ élève le mariage à la dignité de sacrement lorsqu'il l'honore de sa présence les noces de Cana. Tel est le sentiment de saint Cyrille dans sa lettre à Nestorius, de saint Épiphane, et de saint Maxime, de saint Augustin, et les protestants ne comptent pas le mariage au nombre des sacrements. On convient que l'obligation de regarder le mariage en qualité de sacrement n'était pas un dogme de foi bien établi dans le XIIe et XIIIe siècle. Saint Thomas, saint Bonaventure et Scott n'ont osé définir qu'il fût de foi que le mariage fût un sacrement. Durand et d'autres scolastiques ont même avancé qu'il ne l'était pas. Mais l'Église, assemblée à Trente, a décidé la question. Au reste, quand on dit que le mariage est un sacrement proprement dit de la loi de grâce, on ne prétend pas pour cela que tous les mariages que les chrétiens contractent soient autant de sacrements. Cette prérogative n'est propre qu'à ceux qui sont célébrés suivant les lois, les cérémonies de l'Église. Selon quelques théologiens, il y a des mariages valides qui ne sont point sacrements, quoique Sanchez prétende le contraire. Un seul exemple fera voir qu'il s'est trompé. Deux personnes infidèles, mariées dans le sein du paganisme ou de l'hérésie embrasse la religion chrétienne. Le mariage qu'elles ont contracté subsiste sans qu'on puisse dire qu'il est un sacrement. La raison est qu'il ne l'était pas dans le moment de sa célébration et qu'on ne le réhabilite point lorsque les parties abjurent l'infidélité. Les sentiments sont plus partagés sur les mariages contractés par procureur. On convient également qu'ils sont valides. Mais ceux qui leur refusent le titre de sacrement, comme Melchior Caro, remarquent qu'il n'est pas vraisemblable que Jésus-Christ ait promis de donner la grâce sanctifiante par une cérémonie à laquelle n'assiste pas celui qui devrait la recevoir, à laquelle il ne pense souvent pas dans le temps qu'on l'a fait. D'autres prétendent que ces mariages sont de vrais sacrements, puisqu'ils s'y rencontrent forme, matière, ministre de l'Église et institution de Jésus-Christ. Que d'ailleurs l'Église en juge et par conséquent qu'elle ne les regarde pas comme de simples contrats civils. Les théologiens ne conviennent pas non plus entre eux sur la matière ni sur la forme du mariage considéré comme sacrement. Premièrement, l'imposition des mains du prêtre, le contrat civil, le consentement intérieur des parties, la tradition habituelle des corps et les parties contractantes elles-mêmes sont autant de choses que différents scolastiques assignent pour la matière du sacrement dont il s'agit. Deuxièmement, il n'y a pas tant de division sur ce qui constitue la forme du mariage. Les uns disent qu'elle consiste dans les paroles par lesquelles les contractants se déclarent l'un à l'autre, qu'ils se prennent mutuellement pour époux, et les autres enseignent qu'elle se réduit aux paroles et aux prières du prêtre. Sur ces diverses opinions, il est bon d'observer, premièrement, que ceux qui assignent pour la matière du sacrement de mariage les personnes mêmes qui s'épousent en face de l'Église confondent le sujet du sacrement avec la manière, la matière du sacrement. Deuxièmement, que ceux qui prétendent que le consentement intérieur des parties, manifesté au dehors par des signes ou par des paroles, est la matière du sacrement de mariage, ne font pas attention qu'ils confondent la matière avec les dispositions qui doivent se trouver dans ceux qui se marient, ou pour mieux dire, avec la cause efficiente du mariage. Troisièmement, que ceux qui soutiennent que la tradition mutuelle des corps est la matière du mariage confondent l'effet de ce sacrement avec sa matière. Quatrièmement, dire que le sacrement de mariage peut se faire sans que le prêtre y contribue en rien, c'est confondre le contrat civil du mariage avec le mariage considéré comme sacrement. Le sentiment le plus suivi est que le sacrement de mariage a pour matière le contrat civil que les deux parties font ensemble et pour forme les prières et les bénédictions sacerdotales. La raison en est que tous les missels, rituels, eucologes que le père Martin a donnés au public nous apprennent que les prêtres ont toujours béni les noces et que cette bénédiction a toujours été regardée comme le sceau qui confirme les promesses respectives des parties. C'est ce qui a fait dire à Tertullien que les mariages des fidèles sont confirmés par l'autorité de l'Église. Saint Ambroise parle dans une de ses lettres de la bénédiction nuptiale donnée par le prêtre et de l'imposition du voile sur l'époux et sur l'épouse. Et le quatrième concile de Carthage veut que les nouveaux mariés gardent la continence la première nuit de leurs noces par respect pour la bénédiction sacerdotale. De là, il s'ensuit que les prêtres sont les ministres du sacrement de mariage. Ils n'en sont pas simplement les témoins nécessaires et principaux, et qu'on ne peut dire avec fondement que les personnes qui se marient s'administrent elles-mêmes le sacrement par le mutuel consentement qu'elles se donnent en présence du curé et des témoins. Tertullien dit que les mariages cachés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas faits en présence de l'Église, sont soupçonnés de fornication et de débauche. Par conséquent, dès les premiers temps de l'Église, Il n'y avait de conjonction légitime d'hommes et de femmes qu'autant que les ministres de l'Église les avaient eux-mêmes bénis et consacrés. Dans tous les autres sacrements, les ministres sont distingués de ceux qui les reçoivent. Et sur quel fondement prétend-on que le mariage seul soit exempt de cette régie? Le Concile de Trente a exigé la présence du propre curé des parties et l'ordonnance de Blois a adopté sa disposition. La fin du mariage est la procréation légitime des enfants qui deviendront membres de l'Église et auxquels les pères et mères doivent donner une éducation chrétienne. Mariage, substantif masculin, en droit naturel. La première, la plus simple de toutes les sociétés, est celle qui est la pépinière du genre humain. Une femme, des enfants, sont autant d'otages qu'un homme donne à la fortune, autant de nouvelles relations et de tendres liens qui commencent à germer dans son âme. Partout où il se trouve une place où deux personnes peuvent vivre commodément, il se met un mariage, dit l'auteur de l'Esprit des lois. La nature y conduit toujours, lorsqu'elle n'est point arrêtée par la difficulté de la subsistance. Le charme que les deux sexes inspirent par leurs différences forme leur union. Et la prière naturelle, qu'ils se font toujours l'un à l'autre, en confirme les nœuds. Ô Vénus, ô mère de l'amour, tout reconnaît tes lois. Les filles que l'on conduit par le mariage à la liberté, qui ont un esprit qui n'ose penser, un cœur qui n'ose sentir, des yeux qui n'osent voir et des oreilles qui n'osent entendre, condamnées sans relâche à des préceptes et à des bagatelles, se portent nécessairement au mariage. L'empire aimable que donne la beauté sur tout ce qui respire y engagera bientôt les garçons. Telle est la force de l'institution de la nature, que le beau sexe se livre invinciblement à faire les fonctions dont dépend la propagation du genre humain, à ne pas se rebuter par les incommodités de la grossesse, par les embarras de l'éducation de plusieurs enfants, et à partager le bien et le mal de la société conjugale. La fin du mariage est la naissance d'une famille, ainsi que le bonheur commun des conjoints, ou même le dernier, séparément, selon Wollaston. Quoi qu'il en soit, celui qui joint la raison à la passion, qui regarde l'objet de son amour comme exposé à toutes les calamités humaines, ne cherche qu'à s'accommoder à son état et aux situations où il se trouve. Il devient le père, l'ami, le tuteur de ceux qui ne sont pas encore au monde. Occupé dans son cabinet à débrouiller une affaire épineuse pour le bien de sa famille, il croit que son attention redouble lorsqu'il entend ses enfants, pour l'amour desquels il n'épargne aucun travail, courir, sauter, se divertir dans la chambre voisine. En effet, dans les pays où les bonnes mères ont plus de force que n'ont d'ailleurs les bonnes lois, on ne connaît point d'état plus heureux que celui du mariage. Il a pour sa part, dit Montaigne, l'utilité, la justice, l'honneur et la constance. C'est une douce société de vie, pleine de fiances et d'un nombre infini de bons, de solides offices et d'obligations mutuelles. À le bien façonner, il n'est point de plus belle pièce dans la société. Aucune femme qui en savoure le goût ne voudrait tenir lieu de simple maîtresse à son mari. Mais les mœurs qui, dans un état, commencent à se corrompre, contribuent principalement à dégoûter les citoyens du mariage, qui n'a que des peines pour ceux qui n'ont plus de sens pour les plaisirs de l'innocence. Écoutez ceci, dit Bacon. Quand on ne connaîtra plus de nations barbares, et que la politesse et les arts auront énervé l'espèce, on verra dans les pays de luxe les hommes peu curieux de se marier par la crainte de ne pouvoir pas entretenir une famille. Tant il en coûtera pour vivre chez les nations polissées. Voilà ce qui se voit parmi nous. Voilà ce que l'on vit à Rome lors de la décadence de la République. On sait quelles furent les lois d'Auguste pour porter ses sujets au mariage. Elles trouvèrent 1000 obstacles, et 34 ans après qu'il les eut donnés, les chevaliers romains lui en demandèrent la révocation. Il fit mettre d'un côté ceux qui étaient mariés, et de l'autre ceux qui ne l'étaient pas. Ces derniers parurent en plus grand nombre, ce qui étonna les citoyens et les confondit. Auguste, avec la gravité des anciens censeurs, leur tint ce discours. Pendant que les maladies et les guerres nous enlèvent tant de citoyens, que deviendra la ville si on ne contracte plus de mariage? La cité ne consiste point dans les maisons, les portiques, les places publiques. Ce sont les hommes qui font la cité. Vous ne verrez point, comme dans ces fables, sortir des hommes de dessous la terre pour prendre soin de vos affaires. Ce n'est point pour vivre seul que vous restez dans le célibat. Chacun de vous a des compagnes de sa table et de son lit, et vous ne cherchez que la paix dans vos règlements. Mais citeriez-vous l'exemple des vierges vestales? Donc, si vous ne gardiez pas les lois de la pudicité, il faudrait vous punir comme elles. Vous êtes également mauvais citoyen, soit que tout le monde imite votre exemple, soit que personne ne le suive. Mon unique objet, la perpétuité de la République. J'augmente les peines de ceux qui n'ont point obéi, et à l'égard des récompenses, elles sont telles que je ne sache pas que la vertu est encore de plus grande. Il y en a de moindres qui portent 1000 gens à exposer leur vie, et celle-ci ne vous engagerait pas à prendre une femme et à nourrir des enfants. Alors cet empereur publia les lois nommées Papia Poppaea du nom des deux consuls de cette année. La grandeur du mal paraissait dans les réactions même. Dieu, on nous dit qu'il n'était point marié et qu'il n'avait point d'enfants. Constantin et Justinien abrogèrent les lois papiennes en donnant la prééminence au célibat. Et la raison de spiritualité qu'ils en apporterèrent imposa bientôt la nécessité du célibat même. Mais sans parler d'ici du célibat adopté par la religion catholique, il eut du moins permis de se récrier avec M. de Montesquieu contre le célibat qu'a formé le libertinage. Ce célibat, où les deux sexes se corrompant par les sentiments naturels mêmes, fuit une union qui doit les rendre meilleurs pour vivre dans celle qui rend toujours pire. C'est une règle tirée de la nature que plus on diminue le nombre des mariages qui pourraient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits. Moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages, comme lorsqu'il y a plus de voleurs, il y a plus de vols. Il résulte de cette réflexion qu'il faut rappeler à l'état du mariage les hommes qui sont sourds à la voix de la nature. Mais cet état peut-il être permis sans le consentement des pères et mères? Ce consentement est fondé sur leur puissance, sur leur amour, sur leur raison, sur leur prudence, et les institutions ordinaires les autorisent seules à marier leurs enfants. Cependant, selon les lois naturelles, tout homme est maître de disposer de son bien et de sa personne. Il n'est point de cas où l'on puisse être moins gêné que dans le choix de la personne à laquelle on veut s'unir. Car qui est-ce qui peut aimer par le cœur d'autrui, comme le dit Quintilien? J'avoue qu'il y a des pays où la facilité de ces sortes de mariages sera plus ou moins nuisible. Je sais qu'en Angleterre même, les enfants ont souvent abusé de la loi pour se marier à leur fantaisie, et que cet abus a fait naître l'acte du Parlement de 1753. Cet acte a cru devoir joindre des formes, des termes et des gènes à la grande facilité des mariages. Mais il se peut que des contraintes pareilles nuiront à la population. Toute formalité restrictive ou gênante est destructive de l'objet auquel elle est imposée. Mais quels inconvénients si fâcheux a donc produit dans la Grande-Bretagne, jusqu'à présent, cette liberté des mariages, qu'on ne puisse supporter des disproportions de naissance et de fortune dans l'union des personnes. Mais qu'importent les mésalliances dans une nation où l'égalité est en recommandation, où la noblesse n'est pas l'ancienneté de la naissance, où les grands honneurs ne sont pas dus primitivement à cette naissance, mais où la Constitution veut qu'on donne la noblesse à ceux qui ont mérité les grands honneurs. L'assemblage des fortunes les plus disproportionnées n'est-il pas de la politique la meilleure et la plus avantageuse à l'État? C'est cependant ce vif intérêt, peut-être, qui, plus que l'honnêteté publique, plus que les droits des pères sur leurs enfants, a si fort insisté pour anéantir cette liberté des mariages. Ce sont les riches plutôt que les nobles qui ont fait entendre leurs imputations. Enfin, si l'on compte quelques mariages que la vie des parents est mieux assortie que l'inclination des enfants, ce qui est presque toujours indifférent à l'État, ne serait-ce pas un grand poids dans l'autre côté de la balance que le nombre des mariages, que le luxe des parents, le désir de jouir, le chagrin de la privation, peut supprimer ou retarder en faisant perdre à l'État les années précieuses à trop borner de la fécondité des femmes. Comme un des grands objets du mariage est doté toutes les incertitudes des unions illégitimes, la religion y imprime son caractère, et les lois civiles y joignent le leur, afin qu'il ait l'authenticité requise de légitimation ou de réprobation. Mais pour ce qui regarde la défense de prohibition de mariage entre parents, c'est une chose très délicate d'en fixer le point par les lois de la nature. Il n'est pas douteux que les mariages entre les ascendants et descendants en ligne directe ne soit contraire aux lois naturelles comme aux civils. Et l'on donne de très fortes raisons pour le prouver. D'abord, le mariage étant établi pour la multiplication du genre humain, il est contraire à la nature que l'on se marie avec une personne à qui l'on a donné de naissance, la naissance ou médiatement ou immédiatement, et que le sang rentre pour ainsi dire dans la source dont il vient. De plus, il serait dangereux qu'un père ou une mère, ayant conçu de l'amour pour une fille ou un fils, n'abusât de leur autorité pour satisfaire une passion criminelle du vivant même de la femme ou du mari à qui l'enfant doit en partie la naissance. Le mariage du fils avec la mère confond l'état des choses. Le fils doit un très grand respect à sa mère. La femme doit aussi du respect à son mari. Le mariage d'une mère avec son fils renverserait dans l'un et dans l'autre leur état naturel. Il y a plus. La nature a avancé dans les femmes le temps où elles peuvent avoir des enfants. Elle l'a reculé dans les hommes. Et par la même raison, la femme cesse plutôt d'avoir cette faculté et l'homme plus tard. Si le mariage entre la mère et le fils était permis, il arriverait presque toujours que, lorsque le mari serait capable d'entrer dans les vues de la nature, la femme en aurait passé le terme. Le mariage entre le père et la fille répugne à la nature comme le précédent. Mais il y répugne moins parce qu'il n'a point ces deux obstacles. Aussi les Tartares, qui peuvent épouser leur fille, n'épousent-ils jamais leur mère? Il a toujours été naturel aux parents, aux pères de veiller sur la pudeur de leurs enfants. Chargés du soin de les établir, ils ont dû leur conserver et le corps le plus parfait et l'âme la moins corrompue. Tout ce qui peut mieux inspirer des désirs et tout ce qui est le plus propre à donner de la tendresse. Des pères, toujours occupés à conserver les mœurs de leurs enfants, ont dû avoir un éloignement naturel pour tout ce qui pourrait les corrompre. Le mariage n'est point une corruption, dira-t-on. Mais avant le mariage, il faut parler, il faut se faire aimer, il faut séduire. C'est cette séduction qui a dû faire horreur. Il a donc fallu une barrière insurmontable entre ceux qui devaient donner l'éducation et ceux qui devaient la recevoir, et éviter toutes sortes de corruptions, même pour causes légitimes. L'horreur pour l'inceste du frère avec la sœur a dû partir de la même source. Il suffit que les pères et mères aient voulu conserver les mœurs de leurs enfants et leur maison pure pour avoir inspiré à leurs enfants de l'horreur pour tout ce qui pouvait les porter à l'union des deux sexes. La prohibition du mariage entre cousins germains a la même origine. Dans les premiers temps, c'est-à-dire dans les âges où le luxe n'était point connu, tous les enfants restaient dans la maison et s'y établissaient. C'est qu'il ne fallait qu'une maison très petite pour une grande famille, comme on le vit chez les premiers Romains. Les enfants des deux frères ou les cousins germains étaient regardés et se regardaient entre eux comme frères. L'éloignement qui était entre les frères et sœurs pour le mariage était donc aussi entre les cousins germains. Peu si quelques peuples n'ont point rejeté les mariages entre les pères et les enfants, les sœurs et les frères, c'est que les êtres intelligents ne suivent pas toujours leurs lois. Qui le dirait ? Des idées religieuses ont souvent fait tomber les hommes dans ces égarements. Si les Assyriens, si les Perses ont épousé leur mère, les premiers l'ont fait par un respect religieux pour Sémiramis, et le second parce que la religion de Zoroastre donnait la préférence à ces mariages. Si les Égyptiens ont épousé leur sœur, ce fut encore un délire de la religion égyptienne qui consacra ces mariages en l'honneur d'Isis. Comme l'esprit de la religion est de nous porter à faire avec effort des choses grandes et difficiles, il ne faut pas juger qu'une chose soit naturelle parce qu'une religion fausse l'a consacrée. Le principe que les mariages entre les pères et les enfants, les frères et les sœurs, sont défendus pour la conservation de la pudeur naturelle dans la maison, doit servir à nous faire découvrir quels sont les mariages défendus par la loi naturelle et ceux qui ne peuvent l'être que par la loi civile. Les lois civiles défendent les mariages lorsque, par les usages reçus dans un certain pays, ils se trouvent être dans les mêmes circonstances que ceux qui sont défendus par les lois de la nature. Et elles les permettent lorsque les mariages ne se trouvent point dans ce cas. La défense des lois de la nature est invariable parce qu'elle dépend d'une chose invariable. Le père, la mère et les enfants habitent nécessairement dans la maison. Mais les défenses des lois civiles sont accidentelles. Les cousins germains et autres habitent accidentellement dans la maison. On demande enfin quelle doit être la durée de la société conjugale selon le droit naturel, indépendamment des lois civiles. Je réponds que la nature même et le but de cette société nous apprennent qu'elle doit durer très longtemps. La fin de la société entre le mâle et la femelle n'étant pas simplement de procréer, mais de continuer l'espèce, cette société doit durer, du moins, même après la procréation, aussi longtemps qu'il est nécessaire pour la nourriture et la conservation des procréés, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient capables de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. En cela consiste la principale et peut-être la seule raison pour laquelle le mâle et la femelle humains sont obligés à une société plus longue que l'entretiennent les autres animaux. Cette raison est que la femme est capable de concevoir et se trouve d'ordinaire grosse d'un nouvel enfant longtemps avant que le précédent soit en état de pourvoir lui-même à ses besoins. Ainsi, le mari doit demeurer avec sa femme jusqu'à ce que leurs enfants soient grands et en âge de subsister par eux-mêmes, ou avec les biens qu'ils leur laissent. On voit que, par un effet admirable de la sagesse du Créateur, cette règle est constamment observée par les animaux mêmes, destitués de raison. Mais quoique les besoins des enfants demandent que l'union conjugale de la femme et du mari dure encore plus longtemps que celle des autres animaux, Il n'y a rien, ce me semble, dans la nature et dans le but de cette union qui demande que le mari et la femme soient obligés de demeurer ensemble toute leur vie, après avoir élevé leurs enfants et leur avoir laissé de quoi s'entretenir. Il n'y a rien, dis-je, qui empêche alors qu'on ait à l'égard du mariage la même liberté qu'on a en matière de toutes sortes de sociétés et de conventions. De sorte que, moyennant qu'on pourvoie d'une manière ou d'autre à cette éducation, on peut régler d'un commun accord, comme on le juge à propos, la durée de l'union conjugale, soit dans l'indépendance de l'état de nature, ou lorsque les lois civiles sous lesquelles on vit n'ont rien déterminé là-dessus. Si de là il naît quelquefois des inconvénients, on pourrait y en opposer d'autres aussi considérables qui résultent de la trop longue durée ou de la perpétuité de cette société. Et après tout, supposez que les premiers fussent plus grands, cela prouverait seulement que la chose serait sujette à l'abus, comme la polygamie, et qu'ainsi, quoiqu'il ne fût pas mauvaise absolument, et de sa nature, on devrait s'y conduire avec précaution.